Profil perdu, Maria Montessori, 1870-1952, deuxième partie. L'enfant est un roi en marche vers l'aurore, avait coutume de dire le docteur Maria Montessori, rappelant ainsi ce jour de l'épiphanie 1907 où elle ouvrit sa première école à Rome. De Maria Montessori, on sait qu'à 79 ans, en 1949, elle prenait son petit déjeuner à Amsterdam, puis partait donner ses leçons à Londres, où elle déjeunait allègrement à midi avant de prendre l'avion pour l'Inde en fin de journée. « Je suis citoyenne du monde », affirme-t-elle, comme en témoignent les nombreuses écoles plus ou moins fidèles et les centres de formation nés de son passage, de sa pratique, de sa passion. En France, en Italie, au Mexique, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, on se forme aujourd'hui à cette pédagogie fondée sur les besoins de l'enfant définie par Maria Montessori. Le mouvement, le langage, l'indépendance, la sécurité, l'amour, la discipline et surtout l'ordre.
On m'a parlé d'un homme qui vivait dans l'obscurité la plus profonde. Ses yeux, comme du fond d'un abîme, n'avaient jamais vu la plus légère clarté. On m'a dit qu'un homme vivait dans le silence. Jamais le bruit le plus imperceptible n'avait atteint son oreille. J'entendis parler d'un homme qui vivait immergé dans l'eau, une eau d'une étrange tiédeur, et qui brusquement sortit à l'air dans les glaces. Il déploya ses poumons qui n'avaient jamais respiré. Les supplices de Tantale seraient minces en comparaison. Mais il sortit victorieux. L'air détendit d'un trait ses poumons repliés depuis toujours, et alors l'homme cria. Et l'on entendit sur la terre une voix tremblante que jamais on n'avait entendue, sortant d'une gorge qui n'avait jamais vibré. Maria Montessori.
Oui, le silence, c'est quelque chose d'important.
Patricia Delivre.
Mais c'est quelque chose de très subtil aussi, le silence, hein, parce que c'est pas le silence qu'on impose de l'extérieur. Nous avons une leçon qui s'appelle la leçon de silence. La leçon de silence, c'est quelque chose qu'on travaille peut-être sur plusieurs mois avec les enfants, hein, puisque nous avons des groupes en plus d'enfants de 3 à 6 ans dans les classes, donc pas du tout des groupes homogènes d'âge. Hein, et nous allons commencer par faire des jeux d'écoute. Hein. On écoute, qu'est-ce qu'on entend ? Le téléphone qui sonne, les voitures qui passent, les voitures de pompiers, etc. Comme ça, ça a des petits moments. Et puis, on va faire des jeux de son, hein, des jeux d'écoute. Et puis, à certains moments, et ça, il faut sentir quand un petit groupe, d'abord de quelques enfants, est prêt, on va leur faire chut, on écoute. Et ça va durer quelques secondes. Et puis, vous voyez, on va étendre ces temps où on est attentif à ce qui est extérieur, et petit à petit, on va devenir attentif à ce qui est intérieur. Et j'ai une fois, je peux vous relater là une expérience que j'ai eue avec un enfant, un petit enfant qui avait 4 ans, au cours d'une leçon de silence, à la fin, il nous a dit « Chut, j'entends mes bruits intérieurs hein ». Il entendait ses bruits intérieurs. Et bon, c'est vrai que c'est des moments très forts de la vie d'un groupe, ça. Hein, quand chacun est capable de faire silence en soi et de respecter le silence de l'autre. Alors, il y a comme ça quelque chose de très intense qui se passe, mais c'est dans le groupe des enfants. Mais je vous dis, ça se travaille longtemps, une leçon de silence.
Maria Montessori a été un génie créateur. Ce n'est pas ou ce n'est pas essentiellement quelqu'un qui a inventé des procédés, car en définitive, les procédés sont secondaires. C'est quelqu'un qui a su voir, entendre mieux que les autres. Et pourquoi, sinon, parce qu'elle était pleine d'amour. Le Créateur, toujours dans tous les ordres, à tous les niveaux, et quoi qu'on puisse en penser, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la réalité, quelqu'un qui capte les appels. Mais le pédagogue, au sens précis et quelque peu restrictif de ce mot, n'est pas ainsi. 9 fois sur 10, il se contente d'appliquer avec acharnement, avec fureur, des règles auxquelles il entend que l'enfant se soumette. Car il a la prétention de posséder la vérité, une certaine vérité tout au moins. Mais je crois que cette prétention était étrangère à Maria Montessori. Elle savait qu'on ne détient pas la vérité et qu'on ne la sert qu'en la cherchant. Gabriel Marcel.
Marie-Louise Pasquier, on peut dire que vous êtes présidente de l'association Montessori en France.
Oui.
Oui. Oui. Depuis combien de temps ?
Eh bien, je commence ma 6e année. Je viens d'être réélue pour 3 ans parce que nous ne sommes pas très nombreux et il faut se maintenir pour le moment.
Voilà, qu'est-ce que représente l'association Montessori en France ? Qu'est-ce qu'on entend sous ce nom-là ?
Eh bien, c'est une association qui est ancienne puisqu'elle a été créée en 1950, mais qui a connu plusieurs, comme toute association, des périodes fastes et d'autres moins virulentes.
Mais une période faste, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est-à-dire des gens qui sont enthousiastes, qui font des efforts, se réunissent, promouvoient des écoles, essayent aussi de transmettre la pensée de Maria Montessori. Et puis des moments, des creux de vagues, et on sort d'un creux de vagues.
À quoi est dû le creux de vague, à votre avis ?
Eh bien, je pense parce que c'est très difficile de maintenir une pensée telle que celle de Maria Montessori lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, je dirais, qui peuvent promouvoir cette idée. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont été formées à la méthode, qui ont compris, qui ont fait des écoles, mais pris dans le travail et dans l'activité du... Bon, il y a eu aussi une évolution pour la formation. Le cours Montessori qui existait et qui était d'obédience internationale a évolué. Il a fallu modifier la profession d'éducateur de jeunes enfants, a connu plusieurs étapes au sein du ministère de la Santé. Il y a eu un effort de faire reconnaître tout ce travail, mais on est resté toujours un peu en marginalité. Et là, quand on est marginal, on n'est pas toujours... on n'est pas reconnu, quoi, pour dire le vrai mot. C'est qu'on souhaiterait une reconnaissance des compétences des gens qui ont appris Montessori.
Montessori. Il y a combien d'écoles Montessori en France qui vivent donc dans la marginalité ?
Eh bien, actuellement, il y en a 35.
35, c'est beaucoup quand même. Dans toute
la France entière. Non, dans la France entière.
France entière.
Il y a 2 éléments qui sont un peu importants et qui sont les plus anciens. C'est à Roubaix, où il y avait, tout de suite après la guerre, un couvent de dominicaines, des dominicaines très qui ont tout de suite adopté, qui avaient fait tout leur collège avec Montessori. Et puis aussi, maintenant, l'école qui est à Rennes, qui a commencé à Limoges à un moment et qui, après, est venue à Rennes et qui, maintenant, a aussi, depuis bien 40 ans d'existence, donc il y a beaucoup de choses, il y a une histoire, donc ça reste des piliers du fonctionnement, mais il y a aussi d'autres écoles très intéressantes tenues par des jeunes femmes qui ont entre... maintenant, la génération des montessoriennes, c'est 25, 35, 40 ans. Quoi.
Au Japon aussi, avez un certain nombre d'écoles.
Au Japon, il y a beaucoup d'écoles. Peut-être actuellement, au moins 2000. mais qui vont jusqu'à... Il y a beaucoup d'écoles pour les enfants, les petits-enfants de 3 à 6 ans, mais aussi maintenant de jusqu'à 9, 10, 12 ans.
Hunter avec les lions. Le lion saute dans un rond de feu. Le phoque joue avec un ballon. Regarde papa éléphant, maman éléphant, et bébé éléphant.
Tu le copies. Tu copies le titre sur son cahier jaune et tu en prends un autre pour la prochaine fois. Ces écoles Montessori, là, ce sont des écoles surtout pour les petits-enfants ?
Oui, 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 parce que, surtout, on a développé en France, à cause du cours qui avait lieu sur la formation des maîtres de 3 à 6 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la jardinière d'enfants, entre guillemets. Alors maintenant, on appelle ça éducateur de jeunes enfants. Et il y avait un cours qui, maintenant, va se poursuivre, pour former justement des Montessoriennes avec le diplôme Montessori international. Eh bien, le souhait qui a été demandé, enfin, ce qui a été demandé par beaucoup d'enseignants et de gens, de pédagogues, c'était de faire un cours national. Mais ça, ça suppose un dialogue, une ouverture avec l'association Montessori international. Ce dialogue est commencé. Il se poursuivra, j'espère, positivement. Il faut trouver la formule administrative qui permettrait de faire ce cours pour accueillir des gens qui sont déjà dans la profession, mais qui ont envie de comprendre et de connaître la pédagogie montessorienne. Les nouvelles règles de fonctionnement de l'éducation nationale, les cycles, nous trouvons ça tout à fait correct parce que nous les appliquons depuis. Madame Montessori a toujours dit qu'il fallait mettre des groupes d'enfants de 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ensemble. L'école Montessori en France n'est pas aussi développée qu'ailleurs, que dans les autres pays, même européens. Mais c'est bien que nous ayons beaucoup d'écoles de la petite enfance. Et nous voudrions développer aussi beaucoup tout ce qui doit se passer en crèche, parce que c'est encore plus important pour l'enfant de 0 à 3 ans.
Il y a aussi des puéricultrices.
Ah oui, en Italie, le mouvement est très important. En Amérique, il y a un cours permanent tenu par Madame Silvana Montanaro.
Silvana Montanaro, vous vous occupez de la formation des éducateurs qui vont avoir en charge des enfants de 0 à 3 ans.
Oui, quand Maria Montessori est retournée de l'Inde après la Deuxième Guerre mondiale, elle parlait avec une amie, Adele Costagnocchi, et elle a parlé de l'importance de faire quelque chose pour les premiers 3 ans. Alors Adele Costagnocchi a commencé en Rome une école privée pour préparer ce que Maria Montessori appelle assistante à l'enfance, assistente à l'infanzia. Mm. Adele Costagnocchi a commencé cela. Et après, l'école est devenue une école d'État. Il y a encore des écoles qui forment les assistantes à l'enfance, mais pas dans toutes les écoles. On les fait avec l'optique Montessori. Et j'ai rencontré Adele Costagnocchi quand j'étais déjà un médecin moi-même. J'avais une petite fille de 2 ans. Et je suis allée là parce que je connaissais cette petite école à travers... Et une amie qui m'avait dit qu'il y avait ces choses-là. Là, j'ai rencontré Madame Adele Costagnocchi et quand elle a compris que j'étais médecin, m'a dit qu'il n'était pas bien pour ma petite enfant parce que les mères intellectuelles ne sont pas de bonnes mères. Mais comme elle était une femme remarquable, m'a demandé d'enseigner quelque chose dans l'école des assistantes à l'enfance et de cela a commencé mon travail dans les Montessori.
Ah, oui.
Après, nous avons fait des cours Montessori internationaux en commençant de 1980 en Rome et après, sept cours de l'AMI se sont faits aux États-Unis, au Mexico, à Londres, nous avons des cours internationaux qui sont pour les enfants de 0 à 3.
Est-ce que ça veut dire, quand vous dites de 0 à 3 ans, que vous occupez aussi des femmes enceintes, que vous les préparez?
Oui, oui, j'ai fait cela pour beaucoup d'années, parce que certainement la première relation mère-enfant ressent beaucoup de ce qui se passe pendant la grossesse et au moment de la naissance. Nous savons que les mères peuvent se préparer bien. On peut avoir une expérience de la naissance très, très positive. Mais il faut se préparer et surtout, selon mon expérience, il y a le besoin que la mère connaisse la possibilité de la relaxation de son corps qui peut aider beaucoup le process. Mm-hmm. Alors nous pouvons avoir un accouchement qui est plus rapide.
Oui.
Et la mère, certainement, l'accouchement est toujours un moment très important et très fort, mais il ne doit être quelque chose qui est trop. C'est quelque chose que la femme préparée peut contrôler de l'intérieur. C'est un travail de la mère et de l'enfant. Les deux peuvent s'aider dans l'accouchement et ça peut venir beaucoup. Nous avons profité de cette préparation à l'accouchement pour avoir les pères aussi et pour parler de l'éducation selon l'optique Montessori. Aussi que nous parlons de l'importance de l'environnement préparé, nous parlons de l'importance aussi des vêtements, de langage, les fèvres, vous dites les fèvres, voilà.
Oui.
Oui, toutes ces choses qui se passent dans les premiers ans et les deuxième, troisième ans, qui peut passer d'une façon tout à fait différente si les parents ont compris des petites choses. Parce que certainement, c'est dans les mains des parents que les premières trois années se passent.
Vous avez enseigné combien de temps en méthode Montessori?
En méthode Montessori, entre 1934 et la guerre, je n'ai jamais manqué une des réunions qu'il y a eu concernant la méthode Montessori, parce que j'étais passionnée aussi par la méthode, très intéressée. J'avais lu les livres de Madame Montessori, j'avais acheté du matériel quand j'ai travaillé avec les enfants et j'ai appris à m'en servir. Mais parce qu'il faut
Qu'est-ce que vous préférez dans ce matériel?
Écoutez, je trouve qu'au point de vue mathématique, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Et je connaissais Madame Neuchâteau, elle disait tous les enfants qui sortent de chez moi sont des matheux. Et c'est vrai, leur plaisir, c'est de faire des maths. Parce que c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et vous savez qu'avec cela, on pourrait récupérer complètement des gens qui ont horreur des mathématiques. Tellement c'est... Ces pensées, on a un enfant très jeune déjà a un sens des mathématiques, une passion pour travailler avec ce matériel.
Le support, ce sont les cylindres qu'on emboîte,
C'est le matériel, oui. Pour les tout petits.
Tout petits, oui.
Oui, pour les petits enfants. Déjà, on leur apprend déjà la vie pratique, c'est-à-dire être indépendant de l'adulte. Savoir se laver les mains seul, savoir nettoyer quelque chose, essuyer au besoin par terre, nettoyer sa table avant de travailler, parce qu'il faut que toujours ce soit fait dans l'ordre. Madame Montessori avait comme but de mettre de l'ordre dans la tête des enfants, de ne pas tout mélanger, ce que l'on fait souvent. Mmh. Alors, tout doit être fait avec beaucoup de soin, beaucoup de propreté, beaucoup d'ordre. Ils ont des petites tables individuelles. Ils commencent par laver leur table pour qu'elle soit impeccable. Et ensuite, quand ils vont se commencer à travailler, eh bien, on leur donne... Ils ont un petit tapis. Et quand le tapis est posé sur la table, ils vont chercher le matériel pour travailler. Toujours, c'est fait avec beau... Et c'est fait, comment dirais-je, on leur présente même les choses d'une manière très sérieuse, en faisant le silence, en leur montrant l'importance de ce qu'ils font.
C'est pas des jeux que l'on prend comme ça et que l'on abandonne quand on a le plus envie. Non. On va chercher son matériel, on travaille avec le matériel aussi longtemps qu'on le veut, et ensuite on va le reporter à la même place pour que celui qui voudra travailler après puisse le retrouver là où il doit être. C'est important tout cela.
Est-ce que cet enseignement éveille le sens artistique de l'enfant ou...
Pourquoi pas?
Oui.
Pourquoi pas? On lui donne... Et sa classe doit être belle, on y met des fleurs, on y met... Enfin, ça dépend aussi un peu de la personne qui s'occupe des enfants. Ça dépend du goût qu'elle a. Les couleurs peuvent être jolies, les murs peuvent être peints de couleurs agréables. Le matériel des tables, les chaises peuvent être aussi harmonieuses.
Vous, ce qui vous a frappé, donc, c'était vraiment cet enseignement des mathématiques.
Non seulement l'enseignement des mathématiques, mais ça, c'est peut-être celui qui a été fait plus peut-être à la portée des enfants. C'est ça. À lire, c'est autre chose. C'est déjà, ça demande déjà... C'est pas vrai, c'est une découverte, mais c'est pas fait de la même manière. Alors, en plus du cours, il y avait également quelqu'un, une des personnes qui travaillait avec elle, qui vous enseignait le matériel, comment l'utiliser, comment le présenter aux enfants, l'utilité de ce matériel, qui était la base de tout.
Pour les petits-enfants, Maria Montessori disait que le jeu, c'est leur travail.
Et oui, hein? D'ailleurs, les enfants disent, et quand ils reviennent, des enfants d'une classe Montessori, d'une école, d'une maison des enfants... Et ça, j'ai eu une conférence hier au soir, et il y a un parent qui a dit, elle revient et elle dit, j'ai travaillé. Alors que ça se passe dans une forme très ludique, dans la maison des enfants.
Et de 6 à 12 ans, alors,
c'est
les apprentissages.
Ah, ce sont les apprentissages. Mais dans une ambiance adaptée aux besoins de l'enfant de 6 à 12 ans, 6-9 ans déjà. Elle a défini des étapes de développement de l'enfant et à chaque étape, elle a proposé des activités qui aident l'intelligence, la prospection, enfin la curiosité, éveille la curiosité, l'intérêt.
Et ensuite, la naissance d'une pensée abstraite.
Absolument.
Oui. Vous avez été très frappée par la découverte du zéro, vous, chez les enfants.
Ah oui, hein? Dans le matériel de mathématiques, ça. Alors là, c'est un monument, le matériel de mathématiques Montessori.
Racontez-moi ça, vous voulez bien, cette découverte du zéro?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a ce matériel qui s'appelle les fuseaux, entre guillemets, et il y a une case où il y a zéro. Et bon, zéro, c'est rien, on dit pas. Non, on ne dit pas que zéro, c'est rien. C'est justement zéro. On ne met pas de quantité dans zéro. Mais les enfants, souvent, mettent dans cette case tous les petits bâtons, qu'on appelle donc des fuseaux, et qui sont au nombre, qui sont développés ensuite dans les cases. On met un dans la case 1, deux fuseaux dans la case 2, etc. Et quand on a rempli les 9 cases, eh bien, dans zéro, il n'y a plus rien. Alors, zéro, c'est extraordinaire, quoi. On apprend zéro, comme on a appris un et deux et trois. Et ça va servir à composer tous les nombres. Et il y a ce beau matériel de perles dorées, ça s'appelle le matériel doré, où on a un, 10, 100 et 1000, enfin, c'est génial, quoi.
Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une méthode qui enrichit l'enfant, parce que là, on ne le juge jamais?
Ah oui, vous dites tout à fait ce qu'il faut dire pour dire Montessori, ça c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. L'enfant, c'est-à-dire que c'est selon ce que son intelligence peut abstraire, si vous voulez. Bon, quand on pose une petite perle dorée, quand on met 10 perles sur une petite barrette, quand on fait la 100, 10 fois 10, c'est une plaque. Et le cube de 1000, c'est un cube. C'est les trois dimensions qui sont là. Alors, au niveau visuel, au niveau sensoriel, il y a quelque chose qui se pose au niveau de l'intelligence mathématique, qui est quand même notre forme d'intelligence, qui a ses règles. Un enfant, ça s'imprègne dans son intelligence et c'est un support fondamental pour la suite. Enfin, moi, je pense que le matériel de mathématiques, c'est génial. Pour le passage à l'abstraction, il y a un cheminement.
Vous l'avez vérifié tant et tant de fois.
Ah oui, 45 ans.
45 ans de vérification, de la justesse d'une pratique et d'une théorie.
Et d'une théorie, tout à fait.
Alors, tu vois, on fait quelque chose, et après on marque. Et tu vois, ça, chez Hélène, j'ai fait carré rouge, il y a des images, et l'image, ça représente un son, et il y a des images, on doit les mettre en dessous si c'est le bon son. Quand on met un L, ça veut dire qu'on a lu un livre.
Et les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire, Valentin?
Les couleurs, ça veut dire que c'est bon. Et là, c'est jaune. C'est un symbole jaune. Là, c'est chez Marielle. Il y a des étiquettes. Il faut lire. Et il y a des écritures. Et les écritures représentent aussi. Ça va avec les images. Alors, on doit les placer. Ça, c'est l'auto-démo. Alors, il y a trois cartes. Il y a des images. On doit les mettre dans la bonne case. Et après, il y a des écritures. On doit lire et on doit les mettre sur l'image. Et après, il y a Marielle qui vient. On lui dit si c'est bon. Et on lit un petit peu des mots. Et là, c'est chez Paulette. Ça, c'est... c'est quoi ça?
Équivalence à 6.
Équivalence à 6, c'est une balance. Il faut que ça pèse le même poids. Et moi j'ai fait 3 plus 3 égale 6. 0 plus 6 égale 6. 6 plus 0 égale 6.
Il y a des pédagogues qui sont intéressés à la fois à Maria Montessori et à la psychanalyse, non, Patricia Delivré?
C'est-à-dire qu'ils ont été des éducateurs montessoriens, ils ont fait une formation Montessori, et puis ensuite ils ont évolué vers la psychanalyse. Et bon, je vous dis, j'ai cité Eric Erickson, j'ai cité Madame Bettelheim, je crois, d'autres que moi-même je ne connais pas.
Anna Freud,
oui, et d'autres sûrement, et même encore actuellement aujourd'hui. Je connais des psychanalystes qui ont été des montessoriennes et qui maintenant ont travaillé avec Françoise Dolto à Trousseau très longtemps. J'en avais rencontré une qui avait d'ailleurs en thérapie une petite fille que moi j'avais en jardin d'enfants. J'étais à l'époque éducatrice en jardin d'enfants, et une petite fille qui avait de très très gros problèmes psychologiques, qui était donc suivie en thérapie à Trousseau par une psychanalyste qui était une ancienne éducatrice Montessori, oui.
Oui, parce que il y a ce souci de Montessori quand même à l'égard des enfants, un peu délaissés. Et on pourrait penser que des enfants autistes, même des enfants psychotiques, on pourrait penser donc qu'il y a des ponts entre ce qu'elle fait et qu'il n'y a pas... En tout cas, il n'y a pas d'hostilité de Montessori à la recherche analytique, à la démarche analytique.
Non, je ne crois pas. Elle en a un peu parlé dans ses livres. Elle en dit quelques mots dans L'esprit absorbant, où elle parle justement de Freud. Elle en dit quelques mots. Alors, à part ça, elle ne s'est quand même pas beaucoup située par rapport à la psychanalyse. C'est vrai que je crois que, bon, quand on parlait de sexualité infantile, enfin, bon, c'est vrai que je crois que ce n'était pas trop son problème à elle.
Dites-moi, vous vous occupez d'éducateurs.
Oui.
Vous dirigez cette école,
oui,
d'éducateurs spécialisés.
Oui. Et de jeunes enfants.
Et de jeunes enfants, d'éducateurs.
C'est pas moi qui dis.
C'est-à-dire de 0 jusqu'à 7 ans.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui à des éducateurs, oui, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde contemporain, de la méthode Montessori?
Ce que nous en enseignons, c'est la compréhension qu'elle a eue du tout petit enfant. Hein, cette espèce d'intuition qu'elle a eue de ce qu'était un petit enfant. Et quand on relit à nouveau les pages, l'embryon spirituel par exemple, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Je les relisais la semaine dernière pour préparer un travail. Je trouve qu'elle avait des propos qui sont d'une très très grande actualité quand on regarde actuellement les travaux qui sont faits par d'éminents spécialistes de la petite enfance tels que Geneviève Haag, tels que donc de grands psychanalystes, puisqu'ils sont psychanalystes aussi. Elle a eu cette perception très 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 fine du bébé en nous disant qu'effectivement il avait une vie psychique. Et bon, après, elle n'a pas forcément eu... les mots, elle n'a pas forcément eu les explications pour aller au bout de son intuition, mais je crois qu'elle avait perçu quelque chose de ce qu'était le petit enfant. Et ça, nous essayons tout à fait de le transmettre à nos étudiants, parce que là, je crois qu'elle était tout à fait précurseur. Puis bien sûr son matériel, bien sûr, mais c'est pas l'essentiel, vous savez, parce que je pense que c'est aussi tellement facile de se servir du matériel comme des béquilles, enfin comme vous voyez, hein, comme de, après tout, voilà,
hein,
et puis voilà, comme une technique. Hein. Alors, moi, je sais que je travaille beaucoup aussi avec les étudiants et je les mets en garde contre un courant que je sens actuellement et contre lequel je crois je me battrai. Qui est les apprentissages précoces. Et ça, c'est très, très fort en ce moment avec la réalité sociale qu'on a à vivre et la crise de l'école, enfin des échecs scolaires, etc. C'est vrai que dans les classes Montessori, certains enfants lisent tôt, vers 5 ans, en France, etc. Mais je crois que ce n'était pas du tout la finalité de la pédagogie Montessori, que les enfants sachent lire à 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Je crois que s'ils apprennent à lire, eh bien, tant mieux, ça fait partie d'un processus de développement. Hein, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés des éléments qui étaient là dans leur environnement scolaire, dans leur ambiance de classe. Mais ce n'était pas du tout l'objectif de la pédagogie Montessori. Ce n'est pas l'objectif de la pédagogie Montessori. Hein, l'objectif, c'est bien que les enfants puissent se développer à leur rythme, alors bien sûr en s'appropriant les éléments de leur culture, bien évidemment, mais tranquillement, à leur rythme, sans pression autre. Et lorsqu'on va dans les classes Montessori actuellement, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant de repérer, c'est de voir la disposition du matériel sur les étagères. Qu'est-ce qu'on va mettre en valeur? Qu'est-ce qui sera en avant, bien présenté? Eh bien, souvent, on trouve les étagères de langage, les étagères de mathématiques, et puis on s'aperçoit que les étagères de vie pratique, par exemple, hein, les étagères de matériel sensoriel, sont un peu plus loin, un peu plus au fond, un peu moins mises en valeur, un peu moins travaillées. Et ça, je trouve ça très, très dommage, parce que c'est par là qu'il faut commencer, par la vie pratique, par le sensoriel, et puis le reste, ça suit après. Mais là, il y a beaucoup d'implicites dans tout ça, voilà.
Sophie Bloch, vous êtes éducatrice Claparède, c'est l'indication qu'on m'a donnée sur cette lettre que j'ai reçue.
Oui, Je suis en fait rééducatrice de mathématiques dans le cadre d'un dispensaire à tendance psychanalytique. Donc je m'occupe d'adolescents et d'enfants, plus d'adolescents, qui ont des difficultés certaines et qui se plaignent de difficultés en mathématiques.
Vous êtes une ancienne élève Montessori.
Oui.
Ça se passe comment dans ces cas-là? Par exemple pour l'enseignement des mathématiques?
D'abord, il faut dire que je n'ai pas un souvenir distinct d'un enseignement de mathématiques, d'un enseignement de français, d'un enseignement d'histoire. Pour moi, tout ça, c'est dans mon souvenir, c'est global. On fait aussi bien des mathématiques en faisant de l'histoire ou du français en faisant des mathématiques. Enfin, c'est un tout. Et j'ai le souvenir d'avoir toujours eu quelqu'un, bon, je ne dirais pas à ma disposition, ce n'est pas le mot, mais toujours quelqu'un prêt à m'aider, à me faire passer la petite difficulté que je pouvais rencontrer. Avec, bon, la possibilité d'attendre, on avait parfois à attendre, bien sûr, que quelqu'un soit disponible, mais il n'y avait jamais de temps pendant lequel on était angoissé de ne pas comprendre. Quand on attendait une aide ou un coup de pouce, on allait aider quelqu'un qui était plus petit que soi, en difficulté, on allait rôder un peu, et on se rendait utile, bon, et puis la personne que vous attendiez arrivait.
Alors vous avez passé combien de temps dans une école Montessori?
Très longtemps.
Très longtemps.
Très longtemps. J'ai d'abord passé, je crois, 2 ans chez des religieuses anglaises qui, en maternelle, donc qui utilisaient la méthode Montessori, j'imagine. Enfin, pour moi, il n'y a pas de discontinuité entre cette école-là et ensuite l'école de Madame Bernard, dans laquelle j'ai dû passer 5 ans, 6 ans peut-être. Enfin, toute la scolarité primaire.
Mais l'école de Madame Bernard, c'était une école dans un appartement privé.
C'était une maison,
oui.
Avec jardin, avec étage, avec galerie, avec des recoins. Avec une maison, une vraie maison. Ça s'appelait la maison des enfants d'ailleurs.
Ça s'appelait, c'était dans le 17e arrondissement,
oui,
à Paris.
C'était rue Eugène Flachat.
Donc là, vous avez fait tout le reste de votre scolarité?
J'ai fait toute ma scolarité primaire, étant entendu qu'il n'y avait pas de niveau, je ne savais jamais dans quelle classe j'étais. Et quand mes petites amies à l'extérieur me disaient « Tu es en quelle classe ?» Je ne savais pas. C'était un problème. Et bon, on apprenait d'une façon tout à fait incohérente par rapport au programme scolaire. Je me rappelle que je savais en mathématiques beaucoup plus de choses que les gens de mon âge. Mais par contre, je pouvais en français être tout à fait à la traîne. Ou, ça dépendait. On progressait par intérêt. Par centre d'intérêt personnel. Donc on pouvait aller très loin tant qu'on avait envie de continuer dans ce domaine.
Et à son rythme.
Et à son rythme, bien sûr.
Et le silence, par exemple. Vous vous souvenez?
Faire silence, oui, bien sûr. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que je pratique encore sans même le vouloir. Enfin, c'est une façon de se retrouver, de se rassembler, de récupérer une efficacité. J'y pense rarement en tant que telle. Là, quand vous m'en parlez, tout d'un coup, je sens un déplaisir. Parce que j'ai le souvenir qu'on nous demandait de faire silence à des moments où ça ne correspondait à rien pour moi. J'avais besoin, au contraire, de poursuivre une activité. Et j'étais toujours un peu mécontente quand on me l'imposait. C'est un silence absolu, enfin dans mon souvenir. Hein. Mm-hmm. Un silence absolu. On met sa tête entre ses bras, si on est à une table, et on attend. Chacun respecte, dans la mesure de ses possibilités. C'est vrai que pour les petits, c'est toujours un peu plus difficile, et pour les agités, c'est très difficile.
Est-ce qu'on vous parlait de Maria Montessori? Qu'est-ce qu'elle évoquait pour vous?
C'est plutôt Mario qui évoque quelque chose pour moi.
Oui.
Parce qu'on voyait de temps en temps, et on détestait ça, on voyait arriver des adultes qui s'incrustaient dans nos classes, enfin dans nos locaux. Et il y avait une galerie en particulier. Donc ces gens montaient dans la galerie et nous regardaient d'en haut, et nous regardaient travailler. Et on avait horreur qu'on nous regarde travailler. Ça nous gênait beaucoup. On avait l'impression d'être espionnés, ou admirés, mais on ne savait pas trop. Enfin, c'était gênant.
Et son fils, donc, est venu, Mario?
J'ai le souvenir de ce monsieur Mario, très brun, très gros. Et elle, non. Je ne sais même pas si je ne l'ai jamais vu. Je ne pense pas, Madame Montessori.
Le fils parlait avec vous?
Oui, sûrement. On nous posait des petites questions. Et puis, on essayait de nous faire parler devant les stagiaires, devant les visiteurs. Mais c'était pas, ça ne nous plaisait pas. Ça nous détournait de ce qu'on était en train de faire.
Est-ce qu'il y a une limite pour vous au système montessorien ?
J'y réfléchis depuis quelques années. Et bon, sur le coup, je n'ai vraiment senti aucune limite. Sinon qu'on m'avait appris à écrire en script et qu'en cinquième, j'ai un professeur de français qui m'a dit « Si vous continuez à écrire en script, je vous mettrai zéro ». Je me suis dit quand même, c'est peut-être pas idéal d'écrire en script, mais c'est tout. Et maintenant, je crois que je... Bon, faire la part de mon caractère, faire la part de Montessori, je sais pas. Il me semble que ça ne suscite pas l'imagination, la créativité, les émotions artistiques, tout ça. Bon, je crois que ça ne s'en occupe pas, en fait. C'est une part qui n'est pas du tout abordée par Montessori. Donc, il faut soi-même, peut-être par ailleurs, être riche dans ces domaines-là. Moi, je ne l'étais pas très, et donc, ça n'a rien développé de ce côté-là.
C'est un enseignement plutôt intellectuel qui développe des facultés abstraites chez les enfants.
Des facultés abstraites, et aussi, je crois, la quasi-certitude qu'en s'attelant à un travail, on y arrivera. Mmh. Il suffit de s'y mettre, de s'y mettre bien, de s'y mettre sérieusement, de vouloir y arriver, et on y arrive.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'école Montessori pour adolescents en France ?
Je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est souhaitable pour des adolescents, vous savez. Je crois que c'est très bon pour des enfants. Il y a une très grande autonomie chez Montessori, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un cadre qui est très, très fort. Et je pense qu'à l'adolescence, on a besoin de pouvoir partir un petit peu dans des directions qui ne sont pas balisées, qui sont vos choix. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse imposer Montessori à des adolescents. J'aurais pas aimé continuer en Montessori, franchement. D'abord, ça vous tient à l'écart des autres. C'est vrai que vous vous sentez complètement différent. Et... Donc, peut-être qu'on a besoin de rentrer dans la norme quand on est adolescent. C'est peut-être ça. On se sentait très, très privilégié chez Montessori. Vraiment très privilégié.
C'était des enfants de milieux sociaux privilégiés.
Sûrement.
Qui étaient là, oui.
Sûrement. Et puis, on avait vraiment le sentiment d'avoir un cadre qui était fait pour nous. Hein. Quand on voit les petits meubles,
oui.
Tout ce matériel beau. Je ne sais pas si vous avez vu le matériel Montessori. C'est laqué, c'est de belles couleurs. Enfin, quand c'est en bon état. Je sais pas, on avait de jolies feuilles pour écrire dessus, on n'avait pas ces affreux cahiers de brouillon. On avait toujours des beaux crayons, c'était des bouteilles d'encre bien remplies. Enfin, tout était fait pour nous, pour le plaisir.
Mais vous voyez qu'il y a une éducation à la sensibilité artistique quand même par la beauté.
La netteté, je dirais. Hein, la netteté. La beauté, je ne sais pas. Peut-être la beauté, mais pas la fantaisie, pas la création, pas... Les choses sont bien rangées, les choses... Pour être belles, elles doivent être rangées. Vous voyez ce que je veux dire ?
La peinture, comment est-ce qu'elle se faisait ?
J'ai fait des rosaces pendant des heures, des semaines, des rosaces à l'encre de Chine. Mais des rosaces, c'est géométrique. Hein ? Il y a peu de fantaisie dans la rosace. Bon, vous avez le choix des couleurs, vous avez le choix du nombre de rosaces que vous faites à l'intérieur de votre cercle, mais... Non, c'est un cadeau d'avoir passé tant d'années dans une école Montessori. C'est un vrai cadeau.
À condition d'en sortir.
À condition d'en sortir, voilà.
Thank you.
Oui, l'amour de l'enfant est très important pour nous. Père et mère dorment toute la vie. Ils ont tendance à dormir sur toute chose. Il est nécessaire qu'un être neuf les secoue et les soutienne avec une énergie fraîche et vive qui n'existe plus en eux. Il faut un être qui agisse différemment et qui vienne dire chaque matin « Il y a une autre vie que tu as oubliée. Apprends à vivre mieux. » Vivre mieux. Sentir l'amour nous toucher. L'homme dégénérerait sans l'enfant qui l'aide à s'élever. Si l'adulte ne se réveille, peu à peu une dure écorce le recouvrira et le rendra insensible. Maria Montessori.
Dans cette école, pas de rang, pas de sonnerie, non. Mais alors comment est-ce que les enfants arrivent à savoir qu'ils peuvent rentrer en classe, s'installer le matin, enfin...
Les enfants viennent à l'école pour travailler comme dans n'importe quelle autre école. Mais ils viennent avec le sourire, ça c'est incontestable. Quand ils arrivent dans la cour de récréation, ils ont un signal visuel qui est un rond de carton très simple avec le nom de leur classe et une couleur. Ces ronds de carton sont suspendus à une fenêtre, donc en arrivant dans la cour, ils vérifient s'ils peuvent monter en classe, si leur rond est retourné, si le feu est vert en quelque sorte. Donc à ce signal, ils décident eux-mêmes de monter en classe, de dire bonjour, de s'installer, de se mettre à leur travail, de choisir leur atelier. Donc ils ne répondent pas à un signal extérieur, qui est celui d'une sonnerie ou d'autres choses, mais ils répondent à un signal intérieur. Il y a déjà une mise en projet. Je décide de monter, de rentrer, de m'installer, je vais travailler.
Et aucun maître ne dira ma classe, mes élèves ?
Non, ça c'est un grand changement de façon de se situer de la part de l'enseignant et qui vient du décloisonnement que l'on pratique. C'est-à-dire que chacun a affaire à plusieurs groupes d'enfants et on n'a plus ce réflexe, c'est vrai, de dire ce sont mes élèves et c'est ma classe. Même s'il y a un référent adulte clair pour les enfants, hein, il y a quelqu'un qui est responsable de chaque groupe, mais il y a un regard pluriel sur les enfants. C'est un plus, je pense, aussi, cela. On a un regard qui se complète entre les personnes, entre les adultes qui ont affaire à l'enfant. Voilà, et alors il y a des temps de concertation entre les enseignants, qui sont maintenant institutionnalisés, et c'est très bien, mais ils existaient déjà avant, où on fait le point régulièrement sur l'avancée du travail de l'enfant, sur ses méthodes de travail, sur son comportement, sur tous les aspects de sa vie à l'école. Je n'ai pas parlé d'un outil de travail aussi qui me semble très important, qu'on n'a pas vu ce matin chez les tout-petits, mais qui est la programmation. C'est-à-dire que l'enseignant remet au début d'année à chaque enfant une programmation. C'est-à-dire c'est l'ensemble des notions qu'il doit acquérir, l'ensemble du programme qu'il doit parcourir dans son cycle. Il le remet en main propre à l'enfant et c'est lui qui gère du début à la fin de l'année son avancée dans cette programmation à son rythme. Donc c'est un outil très important où il est concerné directement par ses apprentissages, c'est lui le premier concerné et concerné par l'évaluation. Il a terminé une notion, il va faire signer sa programmation. Hein, il est conscient de là où il en est et de vers quoi il va.
J'ai vu une photo où on voit le père Faure avec Maria Montessori. Je crois que c'était pour la remise de la Légion d'honneur à Maria Montessori.
Oui, il me semble.
Une Maria Montessori déjà âgée, mais toujours oui. Comme ça, belle oui. Petite vieille dame. Et puis le père Faure penché vers elle avec oui. un grand sourire. Alors, quelles étaient leurs relations? Comment s'est fait le rapport de filiation, d'héritage?
Je sais que le père Faure a...
découvert, a connu Maria Montessori, je crois, à travers une autre personne qui était disciple de Maria Montessori, qui s'appelait Madame Lubienska de Lenval. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer, effectivement, mais c'est en lisant les ouvrages de Maria Montessori que le père Faure est retourné aussi vers les travaux de Itard et Seguin,
dont
elle s'était beaucoup inspirée, et qu'il a été séduit par cette pensée, et il a poursuivi ce travail en créant spécialement en France des centres de formation pédagogique, donc des écoles normales privées, où il a formé des générations d'enseignants. Il a aussi organisé avec d'autres enseignants des sessions de formation pour les professeurs qui avaient cette originalité, bien avant que la formation continue soit mise en place comme elle l'est maintenant, qui avaient cette originalité de proposer des classes pratiques. C'était des sessions où il y avait des enfants au travail. C'était une formation dans la classe, par la classe.
À quel ordre appartenait le père Faure ?
Le père Faure était jésuite. Il se référait beaucoup à un courant de pensée qui est le personnalisme de Mounier. Hein. Il a très souvent cité Mounier. Et...
C'est comme ça que le lien s'est fait, dans le fond, par oui. Emmanuel Mounier.
Oui, sans doute, oui. Sans doute.
Est-ce que vous êtes considérés comme des dissidents par les Montessoriens purs ?
Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais c'est vrai qu'on a quelques différences, déjà au niveau statutaire. On est sous contrat et on est de l'enseignement catholique. Bon, on a une certaine appartenance de ce fait-là, ce qui n'est pas le propre des écoles Montessori, je crois, en France. Mais on a beaucoup de sympathie pour le mouvement montessorien.
Sylvana Montanaro.
Au moment présent, je ne connais rien de nier du Montessori.
Oui.
Je ne veux pas dire qu'il ne peut venir dans le futur. Mais au moment de tous les mouvements éducatifs, certainement les mouvements Montessori répondent à tout ce qui sont les besoins de l'enfant physique et psychique.
Si, c'est pas lui. Lui, on va pas s'en faire.
Nous croyons que l'enfant a en lui tous les potentiels. Et l'enseignant a seulement à lui donner des conditions, lui proposer des situations, du matériel, etc. pour développer ses potentiels. Mais tout est là. Donc il y a un regard très positif sur l'enfant. Et quelque part, je crois aussi qu'on ne parle plus du couple échec-réussite dans cette pédagogie. Parce que s'il y a des potentiels qui ne sont pas encore actualisés, ils ne sont pas encore actualisés, mais ils peuvent être actualisés. On est dans une dynamique, il n'y a pas d'arrêt. L'échec, ça arrête quelque part le processus d'apprentissage. On en est là et c'est bien. C'est une pédagogie qui voit beaucoup le positif, hein, qui encourage l'enfant d'ailleurs. Dans les interventions des enseignants, il y a peu d'interventions négatives, normalement. On relève le positif et c'est drôlement encourageant pour les autres. Quand on met en valeur un comportement ou une réussite de l'ordre du positif, tout le monde a envie d'aller dans ce sens-là.
Ça veut dire qu'on aime.
Ça veut dire qu'on aime, ça veut dire qu'on a un regard globalement approbateur aussi sur l'enfant. Et c'est ce qui permet de grandir et d'avancer. C'est ce dont il a besoin, je crois.
fil perdu, Maria Montessori, avec Sylvana Montanaro, Patricia Delivré, Madeleine Dombrowska, Marie-Louise Pasquier, Sophie Bloch et Nick Bonnefond. Lecture, Roger Brett, Isabelle Pathé. Une émission de Francesca Piolo, réalisée par Daniel Fontanarosa, mixage Mireille François et Philippe Brodin.